Vous écoutez, on lit pour vous.
Le nombre de Canadiens qui déclarent un handicap a doublé depuis 10 ans. Un texte de Lindsay Armstrong de la Presse canadienne, paru le 6 décembre 2023 dans l'actualité. Le nombre de Canadiens qui déclarent au moins un handicap a doublé en 10 ans. Une réalité qui devrait pousser les gouvernements à contribuer à réduire les obstacles à l'accessibilité, estime la responsable d'un organisme de défense des droits de la personne. Les plus récentes données de Statistique Canada montrent que 27 % des personnes de 15 ans et plus, soit environ 8 millions de Canadiens, ont déclaré avoir au moins un handicap en 2022, soit environ 2 fois le pourcentage de personnes ayant déclaré un handicap il y a 10 ans. Recueillies tous les 5 ans, les données de Statistique Canada sont importantes parce qu'elles influencent les politiques publiques gouvernementales au niveau fédéral, provincial et municipal, a rappelé Heather Walkes, présidente nationale du Conseil des Canadiens avec déficience, lors d'une récente entrevue. Au moins 8 millions de Canadiens ont un handicap et nous sommes toujours exclus, incapables de participer avec nos familles et de faire partie de l'expérience canadienne à cause de l'environnement, des attitudes et de la façon dont le système est mis en place pour garantir qu'il y a peu de succès, voire pas du tout, a déclaré Mme Walkes. Parmi les millions de Canadiens handicapés, 72 % ont déclaré avoir fait face à une forme d'obstacle à l'accessibilité au cours de la dernière année. Ainsi, 60 % des 8 millions de personnes ont déclaré avoir fait face à des obstacles pour naviguer dans les espaces publics intérieurs et extérieurs. Mme Walkes, qui se décrit comme ayant une très faible vision, estime qu'il reste beaucoup à faire pour garantir que chacun puisse circuler dans les espaces publics. Par exemple, lorsqu'elle a récemment assisté à une conférence sur les personnes handicapées à Ottawa, elle n'a pas pu utiliser les ascenseurs de l'hôtel. Les boutons n'avaient pas de lettres en relief ou en braille et les usagers étaient alertés par des lumières clignotantes lorsqu'un ascenseur devenait disponible. À l'intérieur de la cabine, le système audio était tellement étouffé qu'elle ne pouvait pas entendre à quel étage elle se trouvait. « Je ne pouvais même pas prendre l'ascenseur en 2023 », a-t-elle déploré. « C'est ce que les gens doivent comprendre. Nous avons des capacités. Nous voulons vivre notre vie, mais nous sommes toujours isolés. » Avoir un handicap, ça coûte cher. Statistique Canada a inclus pour la première fois en 2022 dans son enquête nationale des questions sur les obstacles à l'accessibilité, a déclaré Susan Wallace, analyste à l'agence et responsable de l'enquête canadienne sur l'incapacité, dans une entrevue. L'enquête, a-t-elle ajouté, a permis d'interroger les Canadiens sur 27 types différents d'obstacles impliquant les entrées des bâtiments, l'éclairage et les niveaux sonores ou les trottoirs publics, entre autres. Les problèmes d'accessibilité s'étendent à l'ensemble du pays. Un rapport récent d'un projet dirigé par l'Université de Calgary a révélé que près de 60 % des espaces publics à Calgary, Vancouver et Ottawa sont soit inaccessibles, soit partiellement inaccessibles aux personnes handicapées. L'initiative « Cartographier nos villes pour tous » vise à aider le gouvernement fédéral à atteindre ses objectifs consistant à éliminer les obstacles pour les personnes handicapées d'ici 2040. Madame Walkes estime que le Canada doit également remédier aux difficultés financières de ceux et celles qui attendent impatiemment de connaître les détails de la très attendue loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées qui est entrée en vigueur en juin. Cette prestation, dont les règlements sont à élaborer, vise à réduire la pauvreté et à soutenir les personnes handicapées en âge de travailler grâce à un supplément de revenus. Les consultations en ligne sur la prestation sont réalisées entre le 15 novembre et le 21 décembre 2023. Ce qui est bien, c'est que ça arrive. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement quand et comment ça se déroulera, a déclaré Mme Waukes. Les fauteuils roulants, les ordinateurs à programme parlant et de nombreuses autres technologies d'assistance coûtent cher, a souligné Mme Waukes. Et il devient de plus en plus coûteux de trouver un logement accessible. Les gens doivent comprendre qu'avoir un handicap, ça coûte cher. Le nombre de Canadiens handicapés en 2022 a augmenté de 5 points de pourcentage depuis la dernière enquête de 2017, lorsque 22 % des Canadiens, soit 6,2 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins un handicap. Statistique Canada a déclaré que cette augmentation pouvait être attribuée au vieillissement de la population et à l'augmentation des handicaps liés à la santé mentale chez les jeunes et les personnes en âge de travailler. Le type d'incapacité le plus courant est lié à la douleur, à 62 %, suivi des problèmes liés à la flexibilité et à la mobilité, ce qui est comparable aux résultats de 2017. Le deuxième handicap le plus courant est lié à la santé mentale, à 39 %. La plus forte augmentation du type de handicap entre 2017 et 2022. Lors de la précédente enquête, 33 % des personnes handicapées avaient déclaré que ce handicap était lié à la santé mentale. C'était le nombre de Canadiens qui déclarent un handicap a doublé depuis 10 ans. Un texte de Lindsay Armstrong de la presse canadienne paru le 6 décembre 2023 dans l'actualité.
Notre télévision est handicapée, un texte de Kevin Breton, paru le 21 janvier 2016 dans Urbania. Judith Lucier avait parlé, en marge du dernier gala des Gémeaux, du visage blanc de notre télévision pour dénoncer l'ethnocentrisme de nos œuvres culturelles au Québec. La qualité du débat a été rehaussée notamment par le lancement du livre « Il est temps de dire les choses » de Jérôme Pruneau, un essai qui expose le manque criant de diversité au sein de nos productions médiatiques. Je me suis abstenue, à ce moment précis, d'intervenir dans le débat, même si j'en avais déjà long à dire. C'est que j'attendais patiemment le moment opportun, c'est-à-dire la diffusion de la nouvelle saison de « Ces gars-là », dans lequel je fais modestement office de figurant. Le sujet est, de toute façon, revenu sur le tapis cette semaine par le biais des Oscars. Le premier épisode de cette saison sert de parfait exemple pour illustrer mes nombreux aléas en ce qui a trait à l'absence des personnes handicapées sur nos écrans et plateaux de tournage. Dans l'émission, disponible en ligne, le personnage de Simon-Olivier Fecteau se blesse et doit temporairement se déplacer en fauteuil roulant. Or, le bar de son ami est inaccessible. Tiens, tiens. Et une rampe est donc installée pour lui permettre l'accès. La prémisse est amusante et surtout révélatrice d'une certaine réalité, mais la suite de l'histoire m'a fait sourciller au point où j'ai finalement hésité à participer au tournage. C'est que le bar devient très rapidement le lieu de prédilection de cette communauté des personnes handicapées, qui semble-t-il existe, au grand désarroi du tenancier qui voyait dans son nouvel établissement un cruising bar où il pourrait trouver l'amour. La situation projette deux images fausses et négatives de la personne handicapée. D'abord, celle d'une personne qui vit en retrait de la société et qui se ghettoïse au lieu de s'intégrer. Mais la série, après tout, est une sitcom et a pour caractéristique d'exagérer certains traits de personnalité. Rien donc pour s'en offusquer. La seconde projection est la suivante. On dépeint a priori la personne handicapée comme étant sexuellement indésirable, incapable de mener une vie intime. Comme si, aux yeux des trois protagonistes, ses clientes ne pourraient jamais être perçues comme étant une partenaire adéquate en raison de leur handicap. Toutefois, malgré l'aspect un peu grossier de l'affaire, elle avait une tournure assez intelligente. Il y avait même des gags très drôles. Tournée de shooters pour tout le monde avec l'usage de ses quatre membres. Et, en fin de compte, la situation se renverse complètement et les deux personnages tombent pour la même cliente en fauteuil roulant, interprétée par Émilie Bibeau. J'ai donc, à la lumière de ces explications, accepté de participer au tournage et l'expérience a été profitable dans le sens qu'elle m'a davantage ouvert les yeux sur la représentation du handicap dans les séries d'ici et d'ailleurs. Je me suis demandé, avec cette dizaine de figurants avec un handicap, réunis dans un seul épisode, on vient de faire exploser le pourcentage de personnes handicapées, toutes séries québécoises confondues. Mais pourquoi donc? Pourquoi est-ce que les personnes malvoyantes, sourdes, avec une limitation physique, qui constituent quand même un bon 10% de notre population, sont effacées de nos écrans? Ne ferait-elle pas de bons personnages? Ne permettrait-elle pas une meilleure diversité dans les dialogues, dans les intrigues? Et quand ces personnages sont visibles, elles sont caricaturées en vulgaires pastiches dont l'existence se résume à leurs conditions physiques. Elles doivent répondre à un propos particulier. Leur condition doit obligatoirement faire partie centrale de l'intrigue. La personne handicapée ne peut pas qu'être là, comme vous la verriez, en élément habituel, à l'épicerie, dans la rue, au travail. Elle n'est jamais comme autre chose qu'un personnage dont la vie tourne autour du drame de sa condition physique. Ce triste constat est aussi légion dans les séries américaines, utilisant comme gabarit « How I Met Your Mother ». Sur les 9 saisons et quelques 400 personnages rencontrés, aucun n'a un handicap. Ils sont complètement effacés de cet univers qui prend pourtant place à New York. Le problème ne relève pas seulement du scénario, mais aussi de la distribution. Pourquoi avoir confié, dans le cas qui nous intéresse, le rôle d'un rare personnage handicapé à une actrice sans handicap? Pas que je doute du talent d'Émilie Bibeau ou sa capacité à interpréter correctement une personne en fauteuil roulant. Mais tant qu'à montrer pour une rare fois ce type de personnage, l'occasion était belle de faire découvrir un nouveau talent et de faire tomber une barrière. Il y en a des comédiens avec un handicap qui sortent des universités ou des écoles spécialisées, des actrices ou des acteurs talentueux qui auraient aussi bien, sinon mieux, soyons honnêtes, pu se glisser dans le sillage de la charmante dame en fauteuil roulant. Et, point bonus, le personnage de Maya ne se serait pas bizarrement déplacé toute la série à bord d'un fauteuil roulant emprunté à la pharmacie d'à côté. Ce genre de choix artistique ne fait rien pour aider la situation et contrevient même à l'apparition des personnages avec un handicap sur nos écrans. Pourtant, qui ose même soulever ce fait? Dans l'œuvre de Jérôme Pruneau, il n'est pas ou peu question du handicap. Quand un livre consacré à la diversité artistique omet un segment de la population, tu sais que celui-ci est relégué aux oubliettes trop longtemps. Pourquoi s'indigner collectivement du phénomène du blackface, mais accepter gracieusement qu'une personne sans handicap incarne le rôle d'une personne handicapée? Même qu'on va aller jusqu'à leur remettre des Oscars. L'argument classique qui ressort pour justifier le choix d'un acteur non handicapé est le recours à certains passages, comme des scènes oniriques ou des flashbacks, où le personnage doit marcher. Il devenait alors présumément impossible pour un acteur handicapé d'incarner fidèlement le personnage. Mais lors du dernier Comic-Con de New York, un auteur nommé Howard Sherman a parfaitement réfuté cet argument. Il demande « Pourquoi est-il convenu et coutume de supprimer par ordinateur des jambes ?» Il utilise l'exemple du film Forrest Gump, mais que l'inverse est impensable. Pourquoi ne pas respecter l'ordre normal des choses et ajouter par ordinateur des jambes à un acteur handicapé lorsque les scènes l'exigent? Cette culture tente à Hollywood qu'au Québec de cacher, truquer, dissimuler le handicap à les effets pervers qu'on anticipe. La télé est censée être le miroir de notre société. Tant qu'on ne verra pas les personnes handicapées dans nos œuvres culturelles, elle restera un reflet qui manque de lustre, de clarté, de beauté, de vrai. Et les personnes handicapées, elles, demeureront des entités mystérieuses, marginalisées et dépourvues de quelconque modèle pouvant les inspirer à devenir plus. En attendant, je retourne écouter Master of None, cette magnifique production de Netflix qui déconstruit avec humour et finesse les stéréotypes hollywoodiens du personnage indien, homosexuel, noir, etc. J'espère un jour avoir droit à cette version avec en prime une jolie distribution d'acteurs handicapés. C'était Notre télévision est handicapée, un texte de Kevin Breton, paru le 21 janvier 2016 dans Urbania.
L'homme qui traîne la patte, un texte de Boukhar Diouf, paru le 1er juin 2024 dans la presse. À cause d'un combat partiellement perdu contre le virus de la poliomyélite, la vie m'a imposé un ralentissement naturel. Quand j'étais enfant, mon père disait que je n'arriverais jamais à suivre la masse. Dans les cours d'éducation physique, les professeurs me remettaient immanquablement un certificat d'inaptitude pour ne pas dire un billet d'exclusion à cause de ma patte qui traîne. À l'école primaire, il fallait aussi affronter les railleries, l'intimidation et trouver un espace de survie. Tout ça a laissé des traces et des blessures que mon papa a contribué malheureusement à inscrire plus profondément dans mon être. Papa a ralenti mon élan en me rappelant constamment les limites physiques que la nature m'imposait à cause de ce qu'il appelait ma mauvaise jambe. Par souci de surprotection, il a failli involontairement me convertir en cet éléphanteau d'une légende chinoise qu'on attachait avec une mince corde. Lui qui n'a jamais cherché à se libérer à l'âge adulte, lui qui, devenu grand, ne croyait plus en ses capacités. Profondément marqué par son passé, le géant se pensait toujours impuissant devant la même cordelette qui l'emprisonnait pendant sa jeunesse. Si je suis devenu aujourd'hui un hyperactif de la tête, c'est grâce à ma mère qui ne ratait pas une occasion de me rappeler que je pouvais accélérer avec mon cerveau, rejoindre autrement le peloton et même espérer mener une course. Si mon père a failli me sortir de la piste, ma mère a fait de moi une autre sorte de coureur de vitesse. je fais partie des gens qui ont désormais besoin de réapprendre à ralentir. Pourtant, ironiquement, dans la culture d'agriculteur et de pasteur qui m'a vu grandir, le temps est plus souple et ceux qui paniquent parce qu'ils manquent de temps se voient souvent remettre les pendules à l'heure par les proverbes de la sagesse populaire. « Tu as beau être pressé, disait grand-papa, tu ne pourras jamais commander à ton derrière de galoper devant toi. La seule chose que tu risques, c'est de te ramasser cul par-dessus tête. » Les Blancs ont inventé la montre, mais n'ont jamais de temps. Voilà un autre proverbe que j'adorais dégainer, du moins avant que mon propre bras n'entre dans le tordeur. Aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas facile d'échapper à cette course folle, à ce piège des temps modernes. Le capitalisme est un système qui carbure au chronomètre. C'est une course à obstacles où la sagesse populaire considère le temps comme de l'argent. D'ailleurs, si le temps c'est de l'argent, il faut peut-être commencer à taxer l'autre qui nous demande si on a une minute de notre temps à lui consacrer. On est tellement inféodé à cette course qu'on enseigne à nos enfants le dépassement de soi. Une expression qui, à mon avis, est des plus bizarres de la langue française. Quand on passe autant d'années à vouloir battre sa seule image qu'on voit dans le rétroviseur, c'est qu'il y a une bonne partie de la vie qui nous échappe. Il est impossible de se dépasser soi-même. À moins de se faire un double de sa personne comme partenaire d'entraînement, mais aux dernières nouvelles, le clonage humain était encore tabou. Chose certaine, si on a normalisé cette dérive lexicale, c'est parce que le capitalisme nous pousse à courir après ce qui fuit alors qu'on devrait chérir le plus important qui reste. Mais comment éviter de tomber dans le dictat de la vitesse et des dommageables hormones de stress quand nos sociétés croient que le bonheur dépend bien plus du verbe avoir que du verbe être? Malgré une patte qui traîne, je confesse ici que je vis avec une certaine dépendance au travail. Un problème que ma conjointe a diagnostiqué et que ma mère a essayé de déprogrammer avant de tirer sa révérence. Quelques années avant sa mort, elle m'a dit « Boucard, ton père pensait que tu ne serais jamais un grand coureur. Mais il avait tort. Tu es un champion de la course malgré ton handicap physique. Mais maintenant que tu vieillis et que le poids de l'âge te pèse un peu plus, tu gagnerais à ralentir. Tu sais, mon fils, dans la vie, on tourne bien souvent en rond dans notre course contre la montre. Cette trotteuse infatigable que tous nos sprints n'arrivent jamais à rattraper. On court en oubliant que le temps nous appartient et qu'il suffit d'arrêter pour le prendre et l'utiliser pour ce qui compte vraiment. L'art nous enseigne que c'est de notre vivant qu'il faut s'accorder des temps morts, parce qu'on ne sait pas de quoi elle est faite, mais on est certain que la mort, ça dure une éternité. » Si les membres d'une même famille sont les parties d'un même cœur, nous devrions tous ralentir un peu pour permettre aux différentes parties de ce cœur de battre à la même cadence. C'était « L'homme qui traîne la patte », un texte de Boucard Diouf, paru le 1er juin 2024 dans la presse.
Air Canada adhère à un programme pour soutenir les clients vivant avec un handicap. Un texte de La Presse canadienne, paru le 30 janvier 2024 dans l'actualité. Air Canada adopte une nouvelle mesure pour mieux servir les voyageurs vivant avec un handicap non visible, alors que le transporteur cherche à améliorer l'accessibilité après des cas de mauvais traitement. La compagnie aérienne établie à Montréal a annoncé mardi son adhésion au programme Tournesol des handicaps invisibles, qui permet aux clients de porter un symbole discret de tournesol. Il indique au personnel que ses passagers peuvent avoir besoin d'une assistance supplémentaire ou des besoins particuliers. Air Canada a mentionné être devenue la première société aérienne nord-américaine à joindre ce programme. Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan triennal d'accessibilité d'Air Canada. Elle fait suite également à de nombreux cas concernant de mauvais traitements envers des passagers rapportés l'an dernier, notamment un incident au cours duquel un homme atteint de paralysie cérébrale spastique a été contraint de se traîner hors d'un avion en raison d'un manque d'aide. En novembre, le PDG, Michael Russo, s'est excusé pour les lacunes du transporteur en matière d'accessibilité. Il a aussi annoncé qu'il accélérerait le plan d'accessibilité de l'entreprise ainsi que de nouvelles mesures visant à améliorer l'expérience de voyage de centaines de milliers de passagers vivant avec un handicap. La compagnie aérienne a expliqué mardi dans un communiqué que le cordon tournesol sera disponible au comptoir d'enregistrement de plusieurs aéroports du pays et à bord de tous les vols d'Air Canada. Le transporteur mentionne qu'il formera et sensibilisera ses employés afin qu'ils puissent reconnaître et répondre de manière appropriée aux clients participants dont les handicaps peuvent aller de l'autisme à la perte d'audition, en passant par la maladie d'Alzheimer. Chaque année, nous recevons 1,3 million de demandes d'accessibilité des clients. Cette initiative démontre encore une fois notre engagement à améliorer l'accessibilité, a déclaré par voie de communiqué le vice-président Expérience client et stratégie de l'exploitation à Air Canada, Tom Stevens. Le programme Tournesol a été lancé à l'aéroport Gatwick de Londres en 2016 et s'est depuis étendu à plus de 230 aéroports et 15 compagnies aériennes à travers le monde. Les transporteurs comprennent British Airways, Air France, KLM et Ryanair, mais aucun n'était basé en Amérique du Nord jusqu'à présent. Air Canada et le programme Tournesol s'engagent ensemble à ce que ceux qui portent le cordon soient reconnus et obtiennent le soutien supplémentaire, l'empathie et la bienveillance dont ils ont besoin pendant un vol, a affirmé Paul White, chef de la direction de Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited, une société privée du Royaume-Uni qui gère le programme mondial. C'était Air Canada adhère à un programme pour soutenir les clients vivant avec un handicap. Un texte de La Presse canadienne paru le 30 janvier 2024 dans l'actualité.